Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, nous allons découvrir un art martial particulier et découvrir aussi ses liens avec la médecine traditionnelle chinoise. Nous accueillons Guy Masson, professeur de Qigong. Bonjour Guy.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer en détail votre discipline et ses bienfaits, Guy. Alors pour commencer, qu'est-ce que le Qigong ?
Donc, faut définir le mot.
Oui,
qi, oui. Gong,
d'accord.
C'est deux éléments, donc qi c'est l'énergie vitale qui habite tout être vivant et gong c'est travail, exercice, c'est-à-dire s'entraîner à pratiquer le ressenti énergétique et amener l'énergie en soi pour s'aider, se soigner, s'équilibrer, s'harmoniser.
D'accord.
Et le mot a été défini en Chine il y a une cinquantaine d'années parce que c'était des noms différents selon les régions. Et ils ont fini par unifier ce nom en Qigong.
Voilà. D'accord. Et le Qi, c'est le souffle aussi, je crois.
C'est le souffle, l'énergie.
Donc, le souffle
et l'énergie, c'est lié, voilà.
D'accord. Et Gong.
Ça veut dire exercice, travail.
Exercice et travail, ouais. D'accord. Alors, d'où vient le Qigong exactement, Guy ? Quelles sont ces origines qui sont lointaines,
oui,
je crois ?
Oui, effectivement, plusieurs milliers d'années. Donc, ah, ça, oui. C'est lié à l'acupuncture elle-même aussi. Et du coup, les références à l'acupuncture sont présentes dans le Qigong. Et ce sont des mouvements qui vont aider à agir sur l'énergie des méridiens d'acupuncture. Mais il y a aussi une observation des animaux qui ont permis de faire certains exercices en comparaison au comportement des animaux.
D'accord. Ouais. Donc c'est parti de l'acupuncture, le Qigong. Bien,
ça a été une référence pour aller créer une gymnastique qui harmoniserait les méridiens. Il y avait les aiguilles. Mmh. Bon, à l'époque, au tout début, c'était les graineries qu'on mettait dans le bon sens pour que la circulation d'énergie se fasse. Après, il y a eu les aiguilles.
Oui.
Donc là, c'était une méthode de rééquilibration par les aiguilles, alors que là, c'est par le mouvement, la respiration, le mouvement.
Voilà. D'accord, donc on s'appuie sur les méridiens.
Est-ce exactement.
Que vous pouvez... On en avait parlé un petit peu, mais on n'était pas des... Enfin, on n'est pas des spécialistes.
On n'est toujours pas.
Je m'attendais que tu allais dire ça, Didier. Réexpliquez-nous un petit peu ce que sont les méridiens.
Alors, les méridiens, c'est des circuits énergétiques que nous avons dans le corps. Et il y a pratiquement un circuit par grand organe, un circuit du foie, un circuit de la rate, poumon, rein, etc. Mm-hmm. Donc chaque gros organe ou grand organe ou entraille qu'on appelle aussi pour les organes creux, il y a un méridien. Donc il y en a 12 en tout dans les méridiens superficiels. Il y en a d'autres plus en profondeur après, mais c'est pour les spécialistes là. Donc ce fait-là, donc, on va tenir compte de ce travail sur les méridiens grâce à des mouvements. On va aider l'énergie à mieux circuler, à nettoyer les blocages.
Oui, donc c'est basé sur des connaissances anatomiques tout à fait précises.
Oui, en fait, le Qigong, c'est une partie de la médecine chinoise, au fait, au départ.
Ok.
C'est créer des exercices pour aider les malades, aider les gens à retrouver la santé ou à s'équilibrer.
Mm-hmm. On devrait tous pratiquer le Qigong, bah, j'en suis intimement convaincue.
C'est ce que je me dis en écoutant, là, oui.
Alors, il y a aussi une philosophie, j'imagine. On imagine quand même qu'il y a derrière la médecine traditionnelle chinoise, mais il y a aussi une philosophie, peut-être même plusieurs.
Oui, c'est ça, oui. Le mot plusieurs est adapté, c'est-à-dire qu'il y a la philosophie taoïste du fait des méridiens, l'acupuncture qui est liée au taoïsme, mais il y a un Qigong taoïste, et puis il y a un Qigong bouddhiste aussi, pour les praticiens d'arts martiaux, et il y a un Qigong confucianiste aussi, qui est un peu plus lié au sens moral, au développement des valeurs morales.
D'accord, vous pouvez nous dire deux mots sur le Qigong taoïste, le Qigong bouddhiste et puis le confucianiste.
Alors, pour ce qui est...
Ça ne doit pas forcément être simple, mais...
Non, ce n'est pas forcément simple, mais en fait, c'est des écoles différentes. Et le Qigong taoïste va être beaucoup plus vraiment lié à la médecine chinoise, elle-même. Le bouddhiste...
Rattaché à la nature, donc.
Ouais. Et le Qigong bouddhiste est plutôt lié à la méditation, un Qigong plus méditatif est lié à l'art martial. Et le Qigong confucianiste, on va développer la qualité, les valeurs humaines et morales. Voilà.
D'accord.
C'est complet.
Joli programme, oui, je trouve.
Alors, comment on la met en pratique? Quel est le principe dont vous nous l'avez un petit peu évoqué avec ces histoires de méridiens?
Le principe, c'est, à la base, c'est qu'on va aller travailler sa conscience par rapport à la respiration, puisque c'est déjà un moyen, la respiration, de récupérer de l'énergie. C'est notre premier moyen de récupérer de l'énergie naturelle. À chaque inspire, on récupère à la fois de l'oxygène, du gaz carbonique et autres, azote, mais aussi du chi. Dans l'air, il y a l'énergie vitale qui est présente. Et en respirant, nos poumons ne récupèrent pas forcément que l'oxygène, ils récupèrent aussi le chi qui est dans les volumes d'air. Et ce chi va venir s'associer au chi des aliments, au chi de nos exercices de qigong. Donc ça va faire une absorption de chi de différentes manières, par la respiration, par les aliments et par le qigong.
Et vous parlez de la conscience aussi, j'imagine que c'est important.
Du fait qu'on se met un fil rouge respiration dans la plupart des exercices de qigong, c'est grâce au fil rouge de la respiration que la conscience s'installe. Parce qu'on va développer chez les pratiquants cette mise en conscience respiratoire. Bien souvent, on fait un geste, mais on le fait dans un sens précis, dans une direction précise et dans une phase respiratoire précise.
D'accord.
Donc on va, à ce moment-là, avec cette conscience respiratoire, on va aller plus facilement au ressenti de l'énergie. Si on ne fait pas avec la respiration et qu'on n'est pas habitué à ressentir l'énergie, on ne va pas pouvoir capter. Voilà, l'énergie D'accord. d'une façon perceptive.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire, disons que vous parlez, on parle de conscience, on parle de... Vous venez de dire quoi, là? Perception, non?
Perception interne, perceptive. Oui. Les sensations énergétiques qu'on va développer à force de la pratique, on va ressentir dans son corps où ça me travaille et quel organe va être impacté, dans le bon sens, réharmonisé. Donc, on fait un travail de remise en fréquence, je dirais, pour parler en physicien quantique. De remise en fréquence, parce que le chi, c'est une fréquence. C'est une fréquence d'harmonie pour le vivant. Nous vivons en tant qu'être harmonieux à la naissance. On est baigné d'une énergie vitale, le chi, mais elle se dégrade par nos comportements, nos pensées, nos émotions, nos événements de vie. On va changer, soit réduire, soit alourdir cette fréquence, la freiner ou l'accélérer. Et du coup, elle n'est plus à la bonne fréquence et ça va créer des désordres.
D'accord.
Voilà.
On azimute tout ça, en fait, alors.
Oui.
On essaye.
On harmonise. D'accord. Ça permet d'aller recréer de l'harmonie entre différents organes, différentes zones du corps.
Ok.
Voilà. L'harmonie en soi. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une voie de transformation personnelle? Parce que si on est dans la prise de conscience, la conscience de soi,
à entendre tout
etc., ça.
Ça
amène peut-être à ça, non?
Oui, c'est un peu l'axe, parce qu'à partir du moment où on a commencé à respirer consciemment et au rythme qui permet à l'énergie de venir s'installer, parce que grâce à la respiration, l'énergie va suivre le rythme de la respiration paisible, et l'énergie se déplace toujours de façon fluide, souple et paisible. Voilà. Donc, on va installer progressivement un état de bien-être, et cet état de bien-être va permettre aux sensations de se manifester dans le corps.
Bien, d'accord.
Ça nous emmène loin. Hein. Merci Guy, en tout cas, de nous ouvrir l'esprit aussi à travers ça. Donc, est-ce que l'on peut dire que le Qigong est un art martial?
Alors,
il y a un peu la réponse dans ma question, mais dites-nous un petit peu, parlez-nous un petit peu de l'histoire finalement du Qigong et des arts martiaux.
Au départ, le Qigong n'était pas martial, il était donc plutôt à soins énergétiques, gymnastique énergétique de rétablissement dans certains symptômes ou pathologies. Ça accompagnait l'acupuncture ou les plantes chinoises, c'était un plus par la gym. Voilà. Mais la gym énergétique, pas une gym physique, d'effort, c'est une énergie de souplesse, de respiration. Voilà. Et c'est devenu ensuite quelque chose qu'on a pu utiliser dans les arts martiaux pour l'échauffement. On se met en équilibre énergétique par le Qigong.
Okay.
Le Qigong en lui-même n'est
c'est
pas un art martial.
En fait.
Oui. C'est un préalable qui a été installé dans les différents arts martiaux comme le Tai Chi, où là, ils font du Qigong en échauffement, ou même dans d'autres techniques, Kung Fu et autres. Mm-hmm. Et ça vient en échauffement énergétique. D'accord. On remet le corps en équilibre énergétique.
On le prépare.
Ouais. Okay. Pour éviter les accidents, éviter les claquages, éviter un certain nombre de choses. Le corps est rééquilibré énergétiquement et après, on va être opérationnel plus facilement dans
d'accord.
les techniques martiales.
Oui, j'entends bien.
Donc c'est indispensable avant toute pratique.
Bah, je dirais presque
l'art martial.
On pourrait proposer le Qigong dans toute préparation de sport et
oui.
d'art.
Ouais. D'accord.
Et
d'ailleurs
aussi.
Ouais,
ah,
d'arts
oui.
martiaux. Hein,
ouais.
Donc même les sports professionnels, en faisant des Qigong, moi j'ai dans mes cours des gens qui font des sports.
D'accord.
Et il y a une cycliste de plus de 70 ans là, qui à chaque fois fait son cours de Qigong le mardi matin. Et l'après-midi, elle fait sa sortie vélo avec son groupe. Mais elle a une pêche d'enfer. Quoi, hein. Le mardi,
okay.
elle a la pêche d'enfer. Elle a eu cours Qigong le matin.
Et du coup, elle a accumulé c'est... l'énergie
ouais.
pour l'après-midi.
Elle s'est préparée pour l'après-midi.
Et ses compagnons de route, les hommes, ont du mal à la suivre.
Voilà. Et ils vont tous venir le mardi matin au Qigong pour se préparer aussi.
Voilà.
D'accord.
D'accord. Alors oui, je voulais vous poser la question sur les bienfaits et les bénéfices. Mmh,
on
mais
en entend
pense
déjà
que...
beaucoup. Là.
Il y en a eu beaucoup de données, oui, effectivement.
Oui.
Mais on peut rajouter quand même, chez les Chinois, il y a trois niveaux dans l'individu. Il y a le niveau physique.
Ouais.
Au niveau des organes du bas-ventre, et puis il y a le niveau moyen poumon et cœur, et il y a le niveau supérieur, le cerveau, la tête.
D'accord.
Donc c'est trois niveaux différents qui peuvent être rééquilibrés par la pratique. Alors il y a souvent une phrase qu'on utilise dans les cours, moi que j'ai découvert quand j'ai débuté, c'était en début de cours, avant de commencer le cours, il y avait deux mots à dire avant de commencer.
Oui.
Regard clair. Et le cœur sincère.
Oh,
ouais.
Le regard clair, c'est pour se donner la direction. Je suis venu pour un cours de Qigong. C'est clairement identifié. Je viens pour un cours de Qigong, me rééquilibrer énergétiquement. Ça, c'est le regard clair. Parce que le regard est lié au cœur. Et le cœur sincère, donc, ils mettent une bonne intention.
Voilà. D'accord.
Bon, bah, j'espère que la pause musicale qu'on a choisie, Didier, va pas gâcher ce superbe moment.
Ça va pas gâcher. On va pouvoir réfléchir à tout ce qui a été dit avant d'entamer la deuxième partie de l'émission. Donc c'est bien, je pense qu'il y a eu beaucoup
alors,
d'informations
titre...
là. Donc,
oui, on va
voilà,
continuer.
On a besoin de cette petite...
Et on va écouter alors Wanting.
Oui.
Et le titre de la chanson, c'est You Exist In My Song.
Et voilà.
C'est chinois.
Exactement.
Très bien.
Voilà. C'est chinois comme le Qigong.
没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，轻盈不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆，你存在。 我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里，你存在。我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。 记得我们曾经肩并肩一起走过那段繁华巷口，尽管你我是陌生人，是过路人，但彼此还是感觉到了对方的一个眼神，一个心跳，一种意想不到的快乐，好像是一场梦境，命中注定。 深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。 上帝。世界之大，为何我们相遇？难道是缘分？难道是天意？脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声。
Alors, vous êtes toujours avec Asialogie sur Radio Alpa 107.3. Donc, alors, Guy a commencé déjà à bien nous expliquer pas mal de choses sur le Qigong. J'avoue que j'étais totalement absorbé. Alors, maintenant, moi, en fait, j'ai envie de
faire du Qigong, non ?
Alors, ça pourrait me donner envie. Mon emploi du temps est un peu compliqué, mais ça pourrait bien me donner envie. En tout cas, c'était passionnant. Et je voudrais justement continuer à en savoir un peu plus. Moi, ce qui me... la petite question que j'ai là, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à commencer, donné envie à commencer le Qigong, et puis pourquoi vous êtes devenu professeur en fait ?
Bah écoutez, mon parcours a commencé par le karaté.
Ouais,
j'étais dans les arts martiaux karaté, japonais donc, okay. Et pendant 20 ans, puisque j'ai été enseignant aussi dans cet art. Et j'ai vécu des expériences que j'avais du mal à m'expliquer à ce moment-là. Et qui était énergétique. Et du coup, j'ai cherché à approfondir cette histoire d'énergie qui se manifestait par certains moments dans le karaté. Et j'ai découvert un médecin qui proposait du Qigong, et le docteur Rekena, Yves Rekena, qui a écrit pas mal de livres. Et j'ai découvert par ses cassettes mes premières expériences de Qigong par des cassettes vidéo. Et ça m'a, au départ, pas trop accroché, mais c'était, ouais. Ça me paraissait lent, moi qui étais sorti du karaté,
ouais, j'imagine, ouais.
Très énergétique, et là c'est plus lent, et il y a la respiration, le temps que je comprenne avec la conscience de la respiration, tranquille, paisible, pour avoir une meilleure perception de l'énergie, j'ai fini par force de pratiquer, trouver des stages, et j'ai rencontré un maître chinois en stage sur Paris, qui m'a enseigné les premiers éléments. Et ensuite, il y a eu un prof qui était élève de ce maître japonais, chinois, pardon. Et du coup, il y avait des cours sur le Mans dans les années 90.
D'accord.
Et la femme qui nous faisait les cours est décédée rapidement, au bout de 2 ans. Et du coup, ma pratique m'a permis, moi, d'accélérer pour proposer des cours ensuite, parce que j'avais envie de transmettre ce que j'avais vécu dans ces 2 ans-là. Et ensuite, il y a eu une obligation de passer par une école, ouais. Pour avoir un diplôme d'école. Donc, j'ai eu une formation avec un maître chinois, et ensuite, j'ai dû refaire une formation à l'école Kimetao à Paris, boulevard Montparnasse, chez le maître Jian Lujun. Et du coup, j'ai fait 2 ans de formation à nouveau, là. Et du coup, j'étais déjà à enseigner. Donc, il fallait passer par un diplôme d'école pour continuer à être autorisé, d'accord. À enseigner.
Okay.
Oui, donc c'est une longue formation finalement. Ça fait 4 ans, si j'ai bien calculé.
Ah bien, écoutez, j'ai fait 2 ans, oui, avec cette
même
personne.
Plus.
Et j'ai commencé à enseigner ensuite. Et en parallèle, ça s'est étalé sur 6 ans.
Ouais. D'accord.
C'est mes premiers cours de Qigong, je les donnais en 98. Voilà.
Ok.
Et du coup, j'ai toujours enseigné cette méthode, et c'est avec beaucoup de plaisir, puisque les retours sont très positifs des personnes qui vont mieux et qui résolvent des problèmes de santé en, d'accord. Venant pratiquer.
Eh ben,
voilà.
Ok. Alors là, on a parlé un petit peu de votre parcours et tout ça. Dans ces parcours, j'ai compris qu'il y avait des maîtres. Et est-ce qu'il y a des moments marquants qui sont liés justement à ces maîtres que vous avez côtoyés?
Mais les événements marquants, c'est que de les observer, de voir comment ils font, et la façon chinoise, en fait, d'enseigner et de, ouais. Donner l'information et l'enseignement, qui est différente des enseignants français d'une façon globale, où on passe, pour eux, on ne parle pas, le cours est silencieux, on copie. Hein, on fait ce qu'on en appelle maintenant en neurophysiologie, c'est on active les neurones miroirs pour copier l'enseignant. Et en copiant, on va ressentir des choses. Et c'est à partir de ce ressenti qu'on pose des questions.
D'accord. Alors on copie, ça veut dire que vous, il vous faut des gestes et,
ouais,
et vous.
Il nous montre. D'accord. Il nous montre. Et après, il nous montre. On fait avec lui.
Ouais.
Puis après, il vient nous corriger. Voilà.
D'accord.
C'est la méthode chinoise. Puis après, il y a les questions, mais en fin de cours.
Ouais.
Pas pendant.
D'accord.
Ou rarement.
Ouais. Hein, ça peut arriver. Ça me rappelle la calligraphie.
D'accord.
L'histoire de Fabienne Verdier, ouais, et la façon dont elle a appris la calligraphie avec les grands maîtres de calligraphie chinoise, où elle copiait.
Ouais.
Et qu'elle utilisait aussi le qi pour faire sa calligraphie.
Pour le chinois, il faut expérimenter avant de parler.
Donc,
il faut faire,
que nous, on fait
et après,
il
faut
contraire.
Parler.
Oui, oui, ça, on pourrait faire l'inverse.
Nous, on a besoin de faire l'inverse. On veut savoir où on va, et pourquoi on le fait, et ceci, cela, toutes les questions possibles.
D'accord.
Mais eux sont plutôt mise en expérience dans le corps, et on parle après.
D'accord.
Surtout, c'est une discipline corporelle, donc c'est un peu plus logique.
Alors, ce parcours, vous l'avez eu qu'en France, à Paris, j'entendais.
Ouais.
Est-ce qu'il y a eu aussi des cours à l'étranger, en Chine, enfin...
Ben, j'ai eu l'opportunité d'aller en Chine, mais je n'ai pas été autorisé à l'époque par mon employeur, donc ça m'a empêché d'y aller. Mais je suis allé dans des centres en Inde, par contre. Où il y avait du Qigong aussi, des enseignants de Qigong en Inde, il y avait des enseignants de yoga. Donc j'ai été pendant plus facilement en Inde qu'en Chine, en fait.
Ok, bon, d'accord. Alors, sinon, dans la pratique, en fait, on a parlé de séance, mais on peut parler un petit peu de comment se déroule une séance de Qigong, parce que moi, j'avoue que je n'y connais rien, je n'en ai jamais vu.
Mm-hmm.
J'imagine, mais j'imagine peut-être mal. Donc, comment ça se passe, une séance ?
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des exercices au départ.
Ça dure combien de temps d'abord, une séance de Qigong ?
Une heure.
Il faut une heure ?
Ouais, une heure.
Une heure.
Alors, on sait bien que la remise en ordre de l'énergie, on l'obtient au bout de 20 minutes.
Okay.
Donc, le supplément, ça va venir approfondir, mais le gain est déjà là dans les 20 premières minutes. Alors, l'échauffement d'abord, où on pratique soit des massages de points d'acupuncture de façon liée à la saison. Si, par exemple, là, on est rentré dans la période, énergétiquement parlant, on est dans l'hiver. Et du coup, on va travailler sur des points d'acupuncture, des méridiens liés à l'hiver, c'est-à-dire reins et vessies.
Mmh.
Donc, on va stimuler les points de renforcement de reins et vessies pour justement qu'ils puissent faire face à l'hiver de bonne façon. Et de garder une énergie suffisante pendant l'hiver, parce qu'elle baisse notre énergie, forcément. On reçoit moins de photons.
On dépense plus d'énergie pour vivre, déjà.
Puis il y a moins de soleil, on reçoit moins.
Donc on reçoit moins de photons qui nous nourrit l'été de façon à faire deux journées en une.
Mm-hmm.
Mais en hiver, on ne fait plus qu'une journée. Donc l'énergie n'est pas là. Donc avec le Qigong, on peut aller se rassasier en énergie, si je puis dire.
Mm-hmm.
Et du coup, on va faire des exercices liés aux méridiens reins et vessies. Méridiens de l'eau, de l'élément de l'hiver. Et du coup, cette réharmonisation reins-vessies nous donne du punch pour l'hiver.
Ok.
Et ça permet à ceux qui ont des faiblesses vessies ou des faiblesses reins d'aller renforcer et de se faire du bien.
D'accord. Bon.
Ça m'impressionne.
Oui, je suis assez estomaqué.
Donc il y a le Qigong du printemps, le Qigong de l'été.
Exactement.
D'accord.
Et de l'automne et de l'hiver. Ce ne seront pas les mêmes exercices.
Exactement. Ce n'est pas les mêmes méridiens. Ce n'est pas le même élément chinois qui est en action. Et là, on est rentré dans la période de l'eau jusqu'à fin janvier.
D'accord.
Et après, il y a des intersaisons. Entre chaque saison, nos quatre saisons, nous, les Chinois, ont intercalé les saisons Terre.
D'accord. Bon, alors il faut suivre toute l'année parce qu'il faut faire toutes les saisons.
Voilà. On déroule les saisons énergétiques.
D'accord. Bon, alors on voit à peu près comment ça se déroule. Il y a des postures, il y a tout ça dans une séance, ça correspond à quelque chose
Alors, il y a le système... par rapport, si on peut comparer avec le yoga, parce que j'ai fait du yoga aussi.
D'accord.
Le yoga est postural, c'est-à-dire on prend une posture et on la tient un certain temps. Donc on va travailler surtout la souplesse physique. Alors que le Qigong, on va travailler en mouvement.
C'est fluide le Qigong.
Ça va être fluide, c'est-à-dire pour aller chercher l'énergie dans les méridiens et comment on fait pour rééquilibrer ce méridien en question ou ces méridiens.
Ok.
Donc il y a la... Et puis après, en fin de cours, en général, on fait une forme de nettoyage final.
Uh-huh.
On se dégage de toute la vieille énergie qu'on a bousculée, mais qui traîne encore dans le corps. et on s'en débarrasse.
Donc il y a des gestes spécifiques pour se débarrasser
des nettoyages,
qu'on nettoie.
Une forme de détoxination de la vieille énergie usée, qu'on appelle l'énergie usée. Et il ne faut pas repartir avec. Donc c'est bien de s'en débarrasser.
D'accord.
Et on n'a plus qu'une nouvelle énergie, celle qu'on a travaillée à ramener par le souffle et par les mouvements.
Parfait.
On est rempli de nouvelle énergie.
D'accord. Alors là, je pense que vous avez subjugé et le plateau et tous les auditeurs et auditrices. Donc, il nous reste petite minute pour pouvoir voir. Mais alors, du coup, vous donnez envie à tout le monde. Alors, quel conseil pour un débutant, pour commencer? Où est-ce qu'on peut pratiquer? Enfin, là, j'ai envie de la fiche pratique de fin d'émission pour pouvoir aller rejoindre un groupe pour faire du Qigong.
Oui. Voilà. Où est-ce que vous enseignez le Qigong, Guy?
J'enseigne depuis donc fin des années 90 donc, et j'ai actuellement 4 lieux d'enseignement. Le mardi matin pour commencer, c'est à Pierre Guédou, derrière la gare, la maison de quartier Pierre Guédou. Et c'est le mardi matin et le premier cours est à 9h15. Et après je fais un cours à Arnage, la Gautrie, pour les gens d'Arnage. Et pareil, ça suit à 10h45, on fait cours, 10h, oui. Et ensuite, le mercredi matin, c'est à la Maison pour tous Jean Moulin, à 9h15. C'est des horaires un peu matinales pour les personnes un peu en retraite.
Ouais.
Ils regrettent pas de venir de bonne heure.
D'accord.
Au contraire, ils se lèvent bien pour venir. Et puis le jeudi matin, il y a 2 cours à Georges Moustaki, à la Maison de quartier, avec un premier cours à 10h15 et un deuxième cours à 11h30.
D'accord. Alors, tous les quartiers du Mans sont respectés.
Ouais. Oui, on va
qu'on
noter ça
nord
sur notre
sud,
page
on
Facebook.
On peut venir faire
Didier.
Du Qigong.
Oui. Voilà. Guy Masson, merci d'être venu dans
Asialogie.
Bah, on a appris beaucoup de choses.
Clairement.
Bon, Asialogie, les amis, c'est fini. On vous retrouve la semaine prochaine, jeudi à midi.
Oui.
Et bien évidemment, le samedi matin à 9h30, le mercredi à 13h et toujours en podcast. Donc rendez-vous jeudi prochain.
À la semaine prochaine, plein d'énergie. Avec ou sans Qigong, plein d'énergie.
Mais plein d'énergie toujours, voilà, mais ce sera encore mieux si on faisait du Qigong, Didier.
Je crois, oui, vu ce qu'on a entendu, je pense.
Salut à tous.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.